Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles en 2 Corinthiens 5, verset 17? Nous sommes en train d'atterrir sur notre série. Je pense que d'ici, je pense peut-être la semaine prochaine, voire dans deux semaines, peut-être on aura fini, je crois. Et Dieu est en train déjà de me montrer où est-ce qu'on est en train d'aller pour la suite. Je peux vous assurer que le Seigneur, il parle. Ah, il parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. Voilà. Et ce que je ressens fortement dans mon esprit, c'est que Dieu est en train de nous préparer à une dimension supérieure. C'est pour ça qu'il nous donne une certaine qualité de message. Et ce que je reçois, c'est insiste, continue, insiste, jusqu'à ce que ceux qui sont destinés à vivre cette dimension-là saisissent la parole et travaillent. Mais tu dois parler, ne t'arrête pas. La Bible dit que Paul, lorsqu'il est arrivé à Corinthe, il a enseigné pendant 3 ans les choses qui concernent le royaume. 3 ans pour installer une église. Parce que pendant 3 ans, il fallait que les gens comprennent la dimension du royaume. Ce n'est pas un message qu'on prêche juste 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il fallait insister, enseigner, revenir jusqu'à ce que les gens comprennent. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est. Que quelqu'un dise avec moi, il est.
Il est.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La version parole vivante dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. Dites avec moi, je suis recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qui était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. C'est un verset fort, ça. C'est un verset, chaque fois que je le relis, c'est comme si je le lisais pour la première fois. Il est recréé. Pas il sera, mais il est recréé. Tu me diras, mais si j'ai été recréé, alors comment se fait-il que je fais toujours les mêmes choses qu'avant? C'est parce que tout simplement, ton âme n'a pas encore saisi la portée de ce qui s'est passé lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Il y a eu un shift spirituel qui s'est fait, une transformation radicale. C'est-à-dire, l'ancienne personne, Dieu dit que l'ancien état est dépassé. Ce qui était autrefois a disparu. Donc, si tu continues ou bien si tu te contentes de tes anciennes habitudes, si tu te contentes de faire ce qui déshonorait Dieu avant, alors c'est que tu, bien que tu aies la nouvelle nature de Christ, tu te persistes à rester attaché à la nature pécheresse qui pourtant, dit la Bible, est crucifiée avec Christ à la croix. Là maintenant, tout est une question de volonté. Quelqu'un a dit le succès dans la vie est une décision. Décide de ce que tu feras de ta vie, sinon quelqu'un d'autre le fera pour toi. Tout part d'une décision. Si tu veux vraiment arrêter de marcher avec l'ancienne nature, tu vas arrêter. C'est juste une décision. Oui, mais j'ai des pulsions, j'ai des choses en moi, je n'y arrive pas, etc. Tout est une question de décision. Prends la décision d'arrêter. Parce que quand tu prends la décision d'arrêter, il y a tout un process qui s'enclenche au-dedans de toi. Des efforts qui se mettent en place, etc. Imagine que tu étais un fumeur à l'extrême. Tu rencontres Jésus-Christ et tu n'arrives toujours pas à arrêter de fumer. C'est difficile pour toi d'arrêter de fumer. Pourtant, tu sais que fumer n'est pas bon. Donc, dès que le culte est fini, tu vas te cacher et puis tu prends une cigarette. Seigneur, pardonne-moi. Je n'y arrive pas. Il y a des chrétiens qui fument. Hein. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. Parce qu'ils sont devenus addicts. C'est-à-dire, leur corps ne peut plus se passer de ça. Mais pour arrêter ça, il faut qu'ils prennent la décision d'arrêter et qu'ils continuent de se répéter. Je n'aime pas la cigarette, je n'aime pas fumer, je n'aime pas fumer. Il est là, je n'aime pas fumer. Je n'aime pas fumer. Je n'aime pas fumer. Je n'aime pas fumer. Et Dieu dit, continue de parler. Non, mais vous savez, il ne faut pas être trop spirituel. Tu sais, il y a des gens qui ont de vrais challenges. Il y en a qui ont de vraies difficultés. Tu penses que c'est parce que quelqu'un a dit, je donne ma vie à Seigneur, au Jésus, à Jésus aujourd'hui, c'est fini, arrêter de fumer comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est dans la tête, c'est dans l'esprit. Il faut qu'il se batte maintenant avec lui-même pour arrêter ça. Paul a dit dans Romains 7 que mon esprit veut une chose, ma chair fait autre chose. Tu sais que ce n'est pas bon les femmes, mais tu continues d'aller vers les femmes. Même quand tu es en train d'embrasser la pauvre fille, tu sais que ce n'est pas bon. Mais pourtant, tu vois ton corps le faire. Comment ça se fait? Pourtant, tu sais que ce n'est pas bon. Parce qu'au-dedans de toi, il y a une loi qu'on appelle la loi du péché qui lutte avec toi et qui te pousse à faire des choses qui ne sont pas bien. Mais oui, tu n'as jamais vu aux États-Unis ou en France, d'ailleurs ça arrive encore aujourd'hui, tout d'un coup on voit un jeune qui se lève un beau matin avec un flingue et puis il part dans une université et puis bouf, il commence à tirer sur tout le monde. Vous n'avez jamais entendu ces informations? Des jeunes qu'on a vus partir dans les écoles et puis ils ont commencé à tirer sur leurs camarades de classe. Les gens ne comprenaient pas ce qui leur passait par la tête et puis ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Et à la fin, ils se suicident. Et ceux qu'on a réussi à attraper, quand on leur demande qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire ça, ils te répondent le plus souvent, je ne sais pas, j'ai entendu une voix qui me disait fais-le. Et pourtant, je ne voulais pas le faire, mais je le faisais. D'où ça vient ça? Bon, là, quand même, c'était un niveau de possession quand même assez élevé. Je suis en train de dire que tu es possédé quand même. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais n'empêche qu'il y a des luttes. Tu ne sais pas que ta chair parle, ton âme parle. Oh, attends, tu blagues. La chair parle. La chair parle. Tu sais que tu ne dois pas aller à cet endroit, mais il y a quelque chose qui te dit, vas-y, vas-y. Tu as ton petit moi blanc qui apparaît ici, qui te dit, n'y va pas. Et ton petit moi rouge avec des cornes qui apparaît ici, qui te dit, vas-y. Ah Seigneur Jésus, amen, gloire à Dieu. Il est une nouvelle créature. Si il est une nouvelle création, alors ça veut dire que l'état dans lequel tu es aujourd'hui est celui de Christ. Et tu dois en être conscient. Maintenant, lorsque l'on vient à Christ, tout comme dans le naturel, quand un bébé vient au monde, il est bébé, il ne sait pas ce qu'il fait. Si tu donnes une paire de ciseaux à un bébé et qu'il voit la prise de courant, il va prendre ça pour un jeu et il va aller mettre. Il ne sait pas que c'est dangereux. Donc, il lui faut des parents pour lui dire, ne fais pas ça. Et on l'accompagne. Mais il arrivera un temps dans la vie où l'enfant deviendra responsable tout seul. Il fut un temps où maman te donnait le sein ou le biberon et il y a une autre saison de la vie où maintenant tu dois te lever et aller te servir toi-même au frigo et préparer pour toi-même. Il fut un temps où maman t'accompagnait tous les matins à l'école et il y a une autre saison de la vie où maintenant tu vas à l'école tout seul. De même, quand tu viens au Seigneur, Dieu est là. Dieu t'accompagne. Dieu est avec toi. Dieu te parle. Tu n'as pas remarqué, par exemple, dans le ministère de Jésus, qu'au moment où il s'est fait baptiser, au tout début de son ministère, tu n'as pas remarqué qu'on entendait souvent la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, le jour de son baptême. Quand il va dans le désert, il entend encore la voix de Dieu là-bas. Quand il est dans le ministère, de temps en temps, il entend la voix de Dieu. Mais plus il approchait le jour de sa crucifixion, moins la voix de Dieu se faisait entendre. La dernière fois qu'il a entendu, c'était quand les Grecs sont venus le chercher. Après ça, Dieu a fermé sa bouche. Dieu a dit, débrouille-toi, va à la croix tout seul. On va voir si tu es digne d'être mon fils. Hein? Donc, il y a un temps aussi de ta vie, il y a des saisons de la vie où tu deviens, Dieu estime que tu es censé être mature maintenant. Tu n'as plus besoin de son soutien. Enfin, il est toujours là, il te soutient toujours. Mais il y a des choses maintenant que tu t'amènes à assumer toi-même. Et la nature pécheresse en chacun d'entre nous, on doit la soumettre. Amen. La grâce surabondante, Christ. Lorsqu'on expérimente une rencontre personnelle avec elle, elle produit un certain nombre de choses dans notre vie. Je n'ai pas besoin de me répéter trop longtemps là-dessus. Pour ceux qui viennent la première fois, on va quand même faire un récap de quelques secondes. La grâce surabondante, première caractéristique de cette grâce, c'est qu'elle fait de toi un être humain rempli de la nature divine appelée la nouvelle création. Deux, la grâce surabondante te rétablit à ton statut de fils héritier dans le royaume de Dieu. Trois, la grâce surabondante nous donne un nouveau accès à nos droits légitimes de fils. Quatre, la grâce surabondante restaure notre intimité avec le Père que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Cinq, elle active les promesses divines dans notre vie. Six, elle rétablit ton autorité. Il y a quelqu'un qui a bien répondu ça aux examens. Il n'y a qu'une seule personne qui a répondu sur la question de la grâce surabondante, qu'elle rétablit l'autorité. J'ai bien aimé ça. D'ailleurs, entre parenthèses, vos résultats sont affichés là-bas. Tant pis pour ceux qui ont eu des mauvaises notes. Mais en tout cas, c'est très encourageant. Amen. Septième caractéristique de la grâce surabondante, elle écrit toute la loi divine dans notre cœur. Sixième, huitième caractéristique, elle ouvre nos yeux, elle ouvre tes yeux pour voir la réalité du monde qui t'entoure. Avant, tu ne voyais pas le monde d'une certaine manière, et depuis que tu es en Christ, tu le vois maintenant clair. Tu vois les mauvaises choses, tu vois tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, alors qu'avant ça ne te disait rien. Neuf, la grâce surabondante est la source dans laquelle nous puisons nos forces, non pas sur les hommes, mais sur Christ. Dix, cette grâce surabondante appelée Christ te donne le pouvoir sur Satan et sur tous ses agents démoniaques. 11. La grâce surabondante augmente ta foi à la dimension du divin. Plus tu es en contact avec elle et plus ta foi augmente. Moins tu es en contact avec elle, plus tu seras faible. Deuxième caractéristique, la grâce surabondante Christ te fait opérer à ciel ouvert d'une manière surnaturelle sur la terre. Il a été bien ce point-là. On a beaucoup insisté là-dessus. Dis avec moi le surnaturel. Il va falloir que tu t'habitues à ce genre de termes, parce que c'est ce à quoi tu es appelé. Amen. 13. La grâce surabondante détruit le manque, la précarité et la pauvreté dans ta vie. 14. La grâce surabondante active l'intelligence et la sagesse divine en chacun d'entre nous. 15. Ce par quoi on a terminé la semaine dernière, c'est que la grâce surabondante restaure la santé divine dans ton corps et irrigue la guérison divine en toi pour détruire toutes les maladies. Celui qui entre en contact avec Jésus-Christ, la vie divine maintenant coule dans ses veines. La vie divine, c'est laquelle? La vie divine, c'est celle dont Jésus-Christ parlait tout le temps. Quand il dit « Celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle ». Pendant très longtemps, la religion nous a fait croire que la vie éternelle, soi-disant, c'est la vie au paradis quand on sera mort. Ce qui est complètement faux. La vie éternelle dont Jésus-Christ parle dans les évangiles vient du grec Zoé, Zoé Agnonios, qui veut simplement dire la vie de Dieu. Toute personne qui est en Jésus-Christ a la vie de Dieu en lui. C'est pour cela qu'un fils de Dieu, quelqu'un qui est en Christ, même si la maladie vient frapper son corps, il sait par la foi qu'il peut être guéri. Parce qu'il sait que la vie divine habite en lui par le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et le jour où tu expérimentes une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, la grâce, alors cette vie maintenant vient habiter en toi. C'est pour cela que Paul dit dans Romains chapitre 8 au verset 11 que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à votre corps mortel. Le mot vie ici, il donnera aussi la vie, c'est le mot grec zoé. Il donnera aussi la vie de Dieu à votre corps mortel, ton corps. La parole de Dieu est simple. Notre problème maintenant à nous, c'est notre foi. C'est de croire que c'est possible dans notre vie. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il faut augmenter notre foi pour vivre cette dimension-là. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. On va continuer. Aujourd'hui, je pense qu'on essaiera de faire 2 ou 3 points. Pour aller un peu plus vite que d'habitude. Mais bon, moi je dis ces choses-là après, comment le Saint-Esprit nous conduit. Que quelqu'un dise avec moi la grâce surabondante. La 16e caractéristique, c'est que la grâce surabondante te redonne une vision pour ta vie. Que quelqu'un dise avec moi la vision. Dis encore avec moi la vision. Quand nous rencontrons Christ, Jésus, appelé la grâce surabondante, notre vision pour notre vie est renouvelée et s'ajuste au plan de Dieu pour nous. Quand nous étions dans le monde, que nous ayons une vision ou pas, la vision que nous avions n'était pas le plus souvent de Dieu. Quand nous sommes dans le monde, nous ne connaissons pas Christ. Quand nous sommes dans le monde, notre esprit est mort. Quand nous sommes dans le monde, nous marchons dans les ténèbres. Et quelle que soit la vision que l'on nourrit, si elle ne rend pas gloire à Christ et si elle ne contribue pas à l'avancement du royaume sur la terre, alors cette vision n'honore pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. Tu me diras, mais pasteur, il y a des gens quand même qui ont bâti des choses quand même. Il y a des gens qui ont construit de belles choses, qui ont fait de grandes choses. Eh bien, je vais t'expliquer tout à l'heure que même si, en apparence, les gens bâtissent de grandes choses, il y a beaucoup de choses que les hommes construisent qui ne viennent pas de Dieu. Et tu vas comprendre pourquoi. La vision du monde est pour la gloire du monde et ne contribue pas à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. La vision du monde, les visions que les gens ont dans le monde nourrissent des choses telles que la soif de réussite, soif de s'enrichir, soif de se faire plaisir, soif d'orgueil, gourmandise, convoitise. On veut réussir pour nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nos familles, nos amis, etc., mais pas pour Dieu. Tu as déjà vu un non-croyant qui se lève un beau matin, il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, puis il dit « Maintenant, je vis pour Jésus !» Ça n'existe pas. Il faut que quelqu'un expérimente une rencontre personnelle avec Jésus-Christ pour commencer à parler comme ça. Mais pourtant, tu peux avoir des visions, entre guillemets, propres. Un bon matin, deux jeunes gens se sont levés et ont décidé de créer un moteur de recherche qui s'appelle Google. Aujourd'hui, Google, c'est Google. Tout le monde connaît Google. Qui ne connaît pas Google ici? Ok, vous me rassurez. Mais ces deux personnes, d'après ce que je sais, ne sont pas du tout en Christ. Et je peux t'assurer que ces deux personnes, avec leur moteur de recherche, aujourd'hui opèrent à une dimension bizarre. Un jour, il y a eu un scandale qui a duré quelques mois aux États-Unis. Parce que l'un des patrons de Google, parce qu'ils sont deux à avoir créé ça, l'un des patrons de Google était en train de passer sur CNN. Et là, il fait une déclaration, ça l'a fourché, il fait une déclaration. Il dit, aujourd'hui, avec Google, nous en sommes arrivés à un niveau où on sait même quand quelqu'un va aux toilettes. Quand il a dit ça, les gens ont eu peur. C'est-à-dire, on vous contrôle. On sait tout ce que vous faites. Ils arrivent même à anticiper tes habitudes. Tu sais pas ça? C'est comme ça qu'il y a eu le film Minority Report avec Tom Cruise, où on décide de mettre en prison des gens alors qu'ils n'ont rien fait. Mais en fait, on étudie leur comportement et on sait qu'ils vont faire. Mais pour les empêcher de faire, on préfère déjà les mettre en prison. Donc, du jour au lendemain. Et aujourd'hui, avec leurs outils technologiques, ils en sont arrivés là. Ils arrivent même à anticiper ce que tu vas faire. Ils savent à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu vas te coucher. Ils connaissent tes centres d'intérêt, etc. Ils savent tout de toi. Mais ça, ils ont eu la vision de créer quelque chose comme ça, mais est-ce que ça venait de Dieu? N'oublie pas que Satan est un chérubin déchu qui a été créé et qui a vécu à côté de Dieu, qui a été impacté par la gloire de Dieu. Et cette gloire, il l'a corrompue. Et il a gardé une certaine sagesse. Et sa sagesse aussi a été corrompue. Donc, il est capable de révéler des choses aux hommes très puissantes. Mais pas pour la gloire de Dieu. Pour la gloire du monde. Amen. Est-ce qu'on me suit? Le problème, c'est que quand tu n'es pas né de nouveau, Ce désir de réussite, il vient de la chair. Et il nourrit tes ambitions personnelles pour les intérêts du monde et les tiens, mais pas pour les intérêts du royaume des cieux. Même si ta vision va dans le sens d'aider les gens, de les soigner, de les aider, etc. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, alors Dieu n'est pas dedans. Tu ne sais pas que l'ennemi est un grand humaniste. C'est un grand humaniste. Il aime les êtres humains. C'est pour ça qu'il leur fait autant de mal. C'est un grand humaniste. Tu n'as pas remarqué que les gens qui sont très impliqués dans les choses bizarres sont très aussi impliqués dans le social? Ils sont beaucoup dans le social. Ils réfléchissent beaucoup aux problématiques économiques, aux problématiques sociales. Ils font des retrouvailles et puis ils discutent comment améliorer l'économie du pays, etc. Ce sont des grands humanistes. C'est leur monde à eux. Mais Jésus-Christ dit dans Jean 17 que ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et que vous, ce que vous cherchez, vous le faites pour la gloire du monde, pas pour la gloire de Dieu. Parce que quand c'est pour la gloire de Dieu, bien sûr, les gens seront aussi touchés, bien sûr, des vies seront transformées, etc. Mais avant toute chose, c'est d'abord Dieu et son royaume. Quelle que soit la vision que tu nourris dans ton cœur, si ce n'est pas pour faire avancer le royaume, si ce n'est pas pour Dieu, alors Dieu, il n'est pas dedans. Maintenant, tu me diras, mais comment faire avancer le royaume avec ma petite vision à moi, mon petit business, etc. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre plus tard. On connaît des gens dans le monde qui ont fait de grandes choses. Et tout ce que tu peux bâtir par amour pour le monde, qui ne glorifie pas Dieu, qui n'honore pas Dieu, même si en apparence ça semble aboutir, chacun d'entre nous en rendra compte, on rendra des comptes à Dieu, chacun d'entre nous. Mais quand tu nais de nouveau, quand tu expérimentes la grâce surabondante, quand tu expérimentes une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, il vient, il prend ton intelligence et puis il dit maintenant c'est plus pour toi, c'est pour Dieu. Change ça. C'est-à-dire tu as maintenant une passion dans ton cœur pour Jésus. Regarde, par exemple, quelqu'un qui jouait du football, qui est un très bon footballeur, et puis il expérimente une rencontre avec Jésus-Christ. Il va toujours continuer à jouer au football. Quand il était non-croyant, il a découvert son talent, il joue au football, il est même devenu riche. On connaît des joueurs comme Kata, des joueurs comme Deco, des joueurs de football très connus. Okay? Mais quand ils ont connu Jésus-Christ, ils ont compris qu'ils ne vivent pas pour leur propre gloire, ils vivent pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que Kaka un jour fait une déclaration en disant que maintenant, chaque fois que je mets un but, c'est pour la gloire de Dieu. Donc je vais encore jouer avec de manière plus excellente et plus je mettrai des buts, plus la gloire de Dieu se manifestera dans ma vie. Et c'est comme ça que Kaka, lorsqu'il était encore au sommet de sa gloire sur la terre, chaque fois qu'il mettait un but, il enlevait son t-shirt et puis il mettait en gros Jésus-Christ est Seigneur. Il venait sur les stades et il mettait Jésus-Christ est Seigneur devant la foule comme ça. Les gens étaient... Et ils ne comprenaient pas, ils étaient excités par le but. Mais lui, Jésus-Christ le Seigneur, prenez, soyez impactés. Mais je peux t'assurer que les gens qui étaient dans les très hautes tribunes avec des costumes noirs, ils étaient là. Qu'est-ce qu'il veut montrer là? Et ils connaissent le combat spirituel que le gars est en train de mener. Donc quand il vous met un but, il est en train de vous dire, vous êtes vaincu. Hein? Deco, très grand joueur brésilien. Il s'est enrichi avec le football, ce monsieur. Il se déplace qu'en hélicoptère. Le jour où tu te déplaces qu'en hélicoptère, vraiment. Et là, Dieu lui met à cœur de s'occuper des enfants défavorisés. Occupe-toi des pauvres. Et il décide de mettre toute sa fortune pour les pauvres. Il construit des centres de formation, il construit des écoles, il construit plein de choses. Et je regardais son reportage et il disait, ça là, c'est Dieu qui m'a donné. Et je sais qu'un jour, je vais quitter la terre. Et tout ça, je vais le faire. Il faut que je laisse un héritage aux enfants, de mes enfants, à ma communauté, au Brésil. Et qu'on se souvienne de moi dans cette génération. Quand je l'ai entendu parler à la télévision, j'ai dit, waouh, punaise. Ah, Seigneur, donne-moi autant d'argent au moins. Amen. Est-ce qu'on me suit? Regardez. Jean nous dit dans 1 Jean 2,15, premier livre de Jean, chapitre 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, dis-moi, le monde passe. Et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu veux comprendre la profondeur de cette parole, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où tu commences à marcher dans la volonté de Dieu pour ta vie, on ne pourra jamais t'oublier. Les gens qui marchent pour eux-mêmes, qui vivent pour eux-mêmes et qui vivent pour la gloire du monde, le monde passe. Et quand le monde passe, le monde les emmène avec eux. Mais ceux qui vivent pour la gloire de Dieu, il laisse toujours des traces derrière eux. On se souvient d'eux et on garde un très bon souvenir d'eux. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je ne peux pas mourir, livre de Jean. Il dit, personne ne peut me tuer. C'est-à-dire, vous pouvez tuer le corps, mais mon impact, vous ne pouvez pas l'oublier. Et les gens qui ont eu un impact très positif au sein de l'humanité, on ne les a jamais oubliés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Peut-être que toi, ça n'atteindra pas des dimensions internationales, mais au niveau de ton entourage, il faut qu'on se souvienne de toi. Un jour, je lisais un bouquin et l'auteur disait, imaginez que vous êtes mort et que vous êtes dans votre cercueil et qu'il y a des gens autour du cercueil et qu'on donne la parole à chacun d'entre eux. D'après vous, que pensez-vous qu'ils diront de vous? Imaginez que parmi ces gens, il y a ton conjoint, tes enfants, ton meilleur ami, collègue de travail, ton pasteur, qu'est-ce qu'ils diront tous? Tu verras que tous, quand ils vont ouvrir la bouche, ils ne diront pas tous. Et on leur dit, parlez vraiment sincèrement. Ce n'est pas parce qu'il est mort que vous avez commencé à faire des éloges. Dites vraiment ce que vous pensez de lui. Tu verras qu'il y a des paroles qui vont te surprendre. Tu risques de te réveiller de ta tombe pour lui mettre... C'est, ah bon, c'est ce que tu pensais de moi? Donc, ce n'est pas parce que ton rêve, ton ambition vient en aide au progrès de l'humanité que cela vient de Dieu. Amen. Le monde actuel dans lequel nous vivons a rejeté Dieu. Il refuse de connaître Dieu. Il est sous la puissance du diable et sert les intérêts du diable et non ceux de Dieu. Donc le jour où tu dis que moi, ce que je vais faire, c'est pour aider le monde, pour faire avancer le progrès de l'humanité. Il faut faire très attention avec les mots là. Progrès. Je vais utiliser un mot très dangereux. J'ai envie d'arrêter l'enregistrement d'abord. Démocratie. Un jour, j'écoutais un pasteur qui dit démocratie, démocratie. Après, il s'arrête et regarde le peuple. Démocratie. On nous dit démocratie, démocratie, démocratie. Démocratie, démocratie. La crassie, le règne d'un petit homme appelé démon. Quand il a dit ça, il y a eu un silence dans la salle. Il dit, ah, pasteur, toi tu utilises dans les termes dangereux, on peut venir fermer notre église ici. On va dire, c'est une rébellion politique ou quoi? Tu vois? Il dit, alors, il n'y a qu'un seul régime qui a été validé par Dieu, c'est celui du royaume. Amen. Tous les régimes qui sont en dehors du royaume ne sont pas bons et ne viennent pas de Dieu. Dieu lui-même est roi. Donc, tous les régimes qui sont venus après le royaume ne sont que des essais que les êtres humains essaient de faire pour soi-disant amener la paix. Vous n'avez pas remarqué que la paix n'est jamais venue sur la terre? Il n'y a qu'un seul système qui amènera la paix, c'est le royaume. Mais pas n'importe quel royaume, le royaume de Dieu. C'est le seul. On a eu les démocraties, on a eu les tyrannies, on a eu les toutes sortes de choses. Le communisme, partage des richesses. Hein? Les socialistes. Un jour, un socialiste vient voir un monsieur, un fermier chez lui. Et ce fermier s'était battu parce qu'il était très pauvre et il avait réussi à acquérir une poule. Et ce fermier vivait tranquillement dans sa ferme avec sa poule. Et le socialiste vient le voir et le socialiste dit, vous savez, le monde actuel, c'est le monde des capitalistes. Et ce n'est pas un bon monde. On doit changer ça. Les socialistes, on doit partager nos richesses et vivre tous en communauté. Donc, si votre voisin a des moutons, on doit prendre la laine de ses moutons et puis partager à tout le monde. Et puis le fermier là, ah oui, oui, c'est tout à fait juste. Ah oui, oui, c'est tout à fait juste. Et votre voisin là-bas, il a des vaches, non? Oui. Donc, on doit prendre ses vaches et puis partager son lait pour tout le monde. Ah oui, oui, ça c'est une très très bonne chose, etc. Ah ouais, ouais, d'accord. Et l'autre là-bas, il a des chevaux. Oui, et on doit prendre tous ses chevaux et puis partager avec tout le monde. Ça, le socialiste, c'est super. Ah ouais. Et le socialiste, il pense qu'il a gagné un nouveau militant pour son parti. Et puis il dit, et vous, vous avez une poule et on doit prendre les œufs de vos poules et partager à tout le monde. Quoi? Ma poule? Sortez d'ici. Pourquoi vous voulez prendre ma poule à moi? Ma poule, c'est pour moi. Donc en fait, la morale, c'est quoi? C'est qu'on est prêt à partager les choses des autres, mais jamais les... Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Donc, nous pouvons travailler toute une vie, poursuivre des rêves, faire des choses. Mais si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, alors ça ne sert à rien. Amen. Dans le monde, les gens bâtissent des édifices, des grandes visions. Et rappelons-nous l'histoire de la tour de Babel. Vous vous rappelez? Dans la Bible. Genèse 11. Ils voulaient construire une tour qui allait atteindre les cieux. Et Dieu a dit, maintenant qu'ils sont devenus un, plus rien ne peut les arrêter. Le seul moyen que Dieu a trouvé, c'est de confondre leur langage. Donc, ce projet que les hommes avaient fomenté ensemble était pour eux un bon projet, mais ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Amen. Pourtant, quand on décide de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, il y a quelque chose dont on doit toujours se souvenir. On doit toujours se souvenir que la priorité de Dieu, c'est celle-là. Quel est le plus grand désir de Dieu? Qu'est-ce que Dieu désire le plus par-dessus tout? 1 Timothée chapitre 2 verset 1, 4 dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Dis avec moi notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a deux choses ici. Un, que tous les hommes soient sauvés. Deux, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'y a pas de plus grand désir pour Dieu. Et Paul rajoute plus loin, dans le 4e chapitre, il dit, nous travaillons, dis avec moi, nous travaillons. En effet, et nous combattons, dis avec moi, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. La chose principale, la chose la plus importante pour Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le temps que tu vives sur la terre, là, si le temps de ta vie sur la terre est de 60 ans, d'autres 80 ans, d'autres 90 ans, peu importe le nombre de temps que tu vivras sur la terre, un jour tu partiras. Un jour chacun d'entre nous partirons. Et le temps que nous aurons passé sur la terre, ce que Dieu nous demande, c'est que nous menions des vies qui amènent les gens à le connaître. Que ce soit au travers d'une église, que ce soit au travers d'un business, que ce soit au travers d'un livre que tu vas écrire, que ce soit au travers de la musique, peu importe ce que Dieu veut, c'est que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, tu peux faire des choses, gagner de l'argent, être promu, être positionné à des postes très élevés dans la société, etc. Ok, mais au bout d'un certain temps, il faut que tu te poses la question, quel est l'intérêt de Dieu dans ce que je fais? Qu'est-ce que Dieu gagne? Voilà. David, par exemple, était un matin à 3h, un soir, une nuit à 3h du matin devant sa fenêtre, il regardait l'arche. Il dit, voici, moi je suis roi, je vis dans des maisons somptueuses. Mais Dieu vit dans une petite boîte appelée l'arche. Je construirai une maison à l'éternel. Demain, boum, on te bombarde. Tu as un poste très important dans une très grosse société ou une administration, peu importe. Tu gagnes de l'argent. Tu nourris ta famille, tes enfants maintenant sont à l'étranger. Tu es quelqu'un d'important dans le pays, etc. Mais la question à te poser maintenant, c'est, bon, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Qu'est-ce que je peux faire pour le royaume? C'est comme ça que vous retrouvez des gens très importants, au niveau même de la République, qui au bout d'un moment se posent cette question et disent, je vais à mon petit niveau à moi contribuer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et comme ces gens-là, ben, tout ce qu'ils ont, c'est leur argent. Donc ils donnent de l'argent. Un jour, il y avait un pasteur à Londres qui venait de finir de prêcher à la fin du culte, et un monsieur avait été très touché par le message. Et le monsieur dit, non, Dieu n'a pas permis que je m'enrichisse comme ça pour moi-même. Et il s'approche, il dit, pasteur, je veux vous voir. Le pasteur le reçoit dans son bureau et il dit, pasteur, voici une enveloppe, voici un chèque de 1 million de dollars et je veux que vous donniez ça à l'évangéliste Renard Bonquet que vous connaissez très bien pour sa prochaine croisade. Il appelle Renard Bonquet sur place. Il dit, j'ai un petit ici là qui vient de me donner 1 million de dollars pour ta prochaine croisade. Est-ce que tu en as besoin? Il dit, certainement j'en ai besoin. Mais on a déjà comblé une bonne partie des besoins pour la prochaine croisade. J'aurais juste besoin de 700 000 dollars. Les 300 000, tu en fais ce que tu veux. Et à la fin de cette croisade, il y a eu des milliers de gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Parce qu'avec cet argent, il a pu organiser sa croisade. Vous imaginez ce gars quand il va arriver devant le trône de Dieu? Dieu a dit, tu te rappelles, il fut un temps, tu avais donné un chèque de 1 million, ça a gagné 100 000 âmes. Voici ce que tu as ramené. Entre dans la joie de ton Père, bon et fidèle serviteur. Voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce à quoi tu arrives dans la vie, souviens-toi toujours que tu dois contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Parce que Jésus-Christ, Matthieu 28, a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Toutes les nations des disciples. Le but, ce n'est pas de faire des gens des croyants ou des chrétiens, c'est d'en faire des disciples. Donc, il y en a qui vont servir à la louange, il y en a qui vont servir dans les affaires, il y en a qui vont servir dans les entreprises, il y en a qui vont écrire des livres, il y en a qui vont être appelés dans le sport, il y en a qui vont être appelés dans la médecine, mais chacun d'entre nous doit toujours se souvenir que dès qu'on est dehors là et qu'on opère dans le monde là, on est en mission. Il y en a comme nous, on est des kamikazes, on s'expose maintenant. Donc on nous tire dessus à balles réelles. Il y en a d'autres, vous allez être dans le système. Vous n'allez pas parler de votre chrétienté toujours ouvertement, mais vous êtes en mission. Votre objectif, c'est de gagner les gens. C'est de convertir les âmes à Christ. C'est de sauver les vies. C'est ça votre objectif. Il faut toujours vous rappeler ça. Si toi, Dieu t'appelle, je sais pas moi, demain tu es dans la jeunesse, ou bien tu es conseiller auprès du ministre de la jeunesse, ton objectif ce sera d'arriver à rentrer dans cette intimité pour influencer ses décisions et puis l'amener à introduire l'évangile au sein de la jeunesse. Vous vous rappelez de Néhémie dans la Bible? Néhémie était à côté du roi Astartex, je ne sais pas comment on prononce ça. Mais pourtant, la Bible dit que Néhémie servait le repas au roi. C'était ça son travail. Tous les jours, il servait le repas auprès du roi. Et un jour, on vient lui dire, les murailles de Jérusalem sont tombées. Et il dit, ah Seigneur, ça, là, il dit qu'il pleura amèrement quand il entendit ça. Et il alla voir le roi et dit au roi, Seigneur, il est temps que je m'en aille pour aller reconstruire les murailles de ma patrie. Il trouva faveur devant le roi et le roi lui donna. Vous pensez que Néhémie, c'est pas précisé dans la Bible, Néhémie était à côté du roi. Tu penses que Néhémie est parti faucher? Néhémie est parti avec beaucoup d'argent. Néhémie était friqué. Il avait de l'argent. Oh, mais punaise, mais il faut bien lire la Bible aussi. Oh. Pensez que c'est, dans la Bible, ce sont toujours des gens avec des longues robes blanches, sales, avec des longues barbes. C'est pas ça, il n'y a pas que ça dans la Bible. Il y avait des gens très importants dans la Bible qui ont travaillé pour Dieu. Ben oui, Néhémie, c'était quelqu'un qui était auprès des politiciens, auprès des rois. Donc toi aussi, il y a des dimensions où Dieu va t'emmener, Dieu va te permettre d'expérimenter des percées, et tout l'argent que Dieu mettra entre tes mains, ce sera pour l'évangile, pas pour toi. Donc, le jour où tu expérimentes une rencontre personnelle avec la grâce surabondante, elle affecte ta vision, elle affecte ta manière de voir le monde, elle affecte ta destinée. Et tu comprends que la vision que tu as pour ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi la vision. Ah ouais. La vision, Dieu nous disait déjà que le temps où la promesse, Christ, La grâce surabondante s'accomplira. J'affecterai vos visions, votre manière de voir le monde. Regarde ce qu'il nous dit dans Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes la nuit. Et vos jeunes gens, des visions. Pendant que tu dors, Dieu vient te parler. Fais ça pour moi. Fais ça pour moi. Dis avec moi la vision. La vision, c'est quelque chose de très important. Pourquoi Dieu affecte ta vision? Parce que tout simplement, Dieu sait que dans la vie, si tu n'as pas de vision claire, tu ne peux pas atteindre ta destinée. La vision est le moteur de tout ce que tu fais dans la vie. Pas de vision, pas de succès. La vision, Dieu sait que c'est important parce que la vision stimule le potentiel. Quand tu acquiers une vision pour ta vie, il y a quelque chose qui se déclenche en toi. Tu te lèves le matin, maintenant tu sais pourquoi tu te lèves. Tu es motivé par quelque chose qui te pousse à travailler. La vision te garde debout en temps d'épreuve. C'est parce que le boxeur voit la ceinture qui est accrochée là sur le côté que chaque fois qu'on le met à terre et que l'arbitre est en train de compter une, deux, à bon trois, il se relève. Parce qu'il regarde la ceinture. Tu vois, non? Si tu ne vois rien, tu n'auras pas la force de te relever. Et Dieu sait qu'une fois que tu as rencontré la grâce surabondante, tu auras des épreuves. Pour atteindre ta destinée, ce ne sera pas facile. Tu auras des difficultés. Et il a besoin de te donner une vision. Dieu vient se révéler à Abraham. Abraham expérimente une rencontre personnelle avec Christ. Et Dieu lui dit, avant la même période, l'année prochaine, tu auras un enfant. Abraham dit, non, Seigneur, c'est mon serviteur Eliezer qui bénéficiera de mon héritage. Je dis, mais non, toi aussi. C'est un enfant qui sortira de toi. Non, Seigneur, je ne peux pas croire ça. J'ai 99 ans, toi aussi, regarde-moi. Il dit, lève la tête et regarde. Compte les étoiles si tu peux. Puis regarde le sol, compte le sable si tu peux. Il dit, Seigneur, c'est trop nombreux. Telle sera ta postérité. Vous me suivez? Dieu touche ta vision, parce qu'il faut qu'il t'amène à voir des choses. Maintenant, tu me diras, mais pasteur, ça fait beaucoup de temps que je suis dans le Seigneur, je n'ai pas une réelle vision pour ma vie, je ne sais pas où je vais, tout ça, tout ça. Eh bien, la clé pour ça, c'est passe plus de temps dans la présence de Dieu. Ouais. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus il va stimuler sa vision dans ton cœur. Tu vas te rendre compte que si tu n'as aucune vision, même en tant que jeune, par exemple tu es étudiant, ou bien tu as arrêté l'école trop tôt, etc. Tu vas voir que plus tu vas passer du temps dans la prière, plus tu vas passer du temps avec Dieu, et un jour, bam, tu vas voir un projet va venir dans ton cœur, et tu sauras que ça vient du Saint-Esprit. Vous me suivez? Le problème avec beaucoup de gens qui ne voient rien pour leur vie, c'est parce qu'ils ne passent pas suffisamment de temps avec Dieu. Tu ne peux pas rester longtemps avec Dieu et ne rien voir. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a tellement de projets. Dieu a tellement de besoins. Regarde, voici un principe que j'ai compris. Quand tu vas voir, par exemple, un président de la République, un homme très occupé, qui a énormément de besoins, et tu arrives, tu dis, je veux juste parler avec vous. Non, mais tu penses qu'il a que ça à faire de parler avec toi? Il faut que tu lui apportes des solutions à ses problèmes. Et quand tu apportes des solutions à ces problèmes, c'est là que c'est comme ça que tu entends, il y en a qui sont, ils sont nommés, bombardés, et on lui donne un budget, et voilà. De même, tu vas voir quelqu'un d'important. La question toujours qui va se poser, c'est en quoi tu peux m'aider pour avancer? Si tu n'as aucun intérêt pour lui, alors tu ne t'étonnes pas qu'il ne te consacre pas du temps. Parce qu'il y en a après qui disent, ouais, mais il ne veut pas me consacrer du temps, il est orgueilleux, etc. Faux. C'est parce que tu ne l'aides pas. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus il va stimuler la vision dans ton cœur. Amen. Que ce soit la vision d'une organisation, d'un business, d'une association, d'une cause, d'un idéal, si ça vient de Dieu, alors tu le sauras. Car Dieu, toujours au travers de la vision qu'il va te donner, se trouvera honoré. Amen. Voici quelques indices pour savoir si la vision que tu as vient de Dieu. 1. Le désir de voir le royaume de Dieu avancer bouillonnera dans ton cœur. 2. Ton environnement sera positivement impacté. 3. Des vies seront transformées autour de toi. 4. Ta communauté sera bénie, voire ton pays. 5, les gens béniront le Seigneur pour ta vie. Ce que tu feras répondra à un besoin immédiat. 7, tu auras la paix dans ton cœur et tu t'épanouiras dans ce que tu feras. Voici les indices qui te permettent de savoir que ce que tu as vient de Dieu. Le baromètre, c'est de voir les vies des autres transformées. Ça, c'est un très bon baromètre de mesure. Amen. Et la grâce surabondante, Christ, quand elle entre dans ta vie, elle t'amène à voir le monde comme ça autour de toi. Si tu n'as pas de vision aujourd'hui, pasteur, comment faire pour avoir une vision dans ma vie? Comment faire pour commencer à nourrir quelque chose de concret pour ma vie? Comment faire? 1. Demande à Dieu dans la prière de t'ouvrir les yeux. 2. Sers fidèlement le Seigneur dans sa maison, l'Église, jusqu'à ce que tu entendes la voix du Saint-Esprit te parler sur ta vie. C'est ce que Samuel, le prophète, a expérimenté. Il était dans la maison de Dieu, il ne savait pas du tout ce qu'il devait faire jusqu'au jour où il a entendu la voix du Saint-Esprit lui parler. Il y en a beaucoup d'entre vous, c'est seulement quand vous allez commencer à servir dans la maison de Dieu que Dieu viendra vous parler. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours de cela. Il est même passé à l'église ici, je l'ai reçu. Il se cherche. Il était à l'étranger, il est rentré au Gabon. Il n'a pas de travail depuis 3 ans qu'il est rentré. Il se cherche. Et quand il me parle, il me dit qu'il est victime d'oppression la nuit quand il dort. Mais en plus de cela, il dit qu'il est confus dans son esprit. Il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas vraiment de qualification au niveau scolaire, etc. Il est complètement confus. J'ai prié pour lui. Mais ce que je ressentais fortement de mon cœur, avant je lui ai posé une question. Je lui ai dit, et ton église, ça se passe comment? Où est-ce que tu pries? Il me dit, je prie dans une église, là, dans la place. Je lui ai dit, ça se passe bien? Ouais, je vais à l'église, c'est tout. Et le monsieur là-bas, c'est ton pasteur? Et il dit, non, c'est le pasteur de l'église. Non, mais est-ce que c'est ton pasteur? Il dit, non, c'est pas mon pasteur. C'est le pasteur de l'église. Ah, donc, en gros, tu ne le considères pas comme ton pasteur, donc tu n'as pas de pasteur. Non. Mais pourquoi tu vas prier dans cette église? Parce qu'il faut que j'aille à l'église. Et je lui ai dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je voudrais bien me considérer comme ton pasteur. Et là-bas, tu ne sers pas, tu ne fais rien. Au lieu de perdre ton temps, viens à la maison du bâtisseur, assieds-toi. Et je deviendrai ton pasteur. On s'occupera de toi, on passera du temps ensemble à prier, à travailler. Tu t'impliqueras et je suis sûr que Dieu te parlera. Il me dit, ok, super pasteur. Super, super, super. Et puis en sortant, je dis, ok, donc on se voit dimanche. Il me fait, oh non, 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 dimanche, je dois aller dans une autre église là. J'ai dit, bah, dimanche d'après alors. Non, non, dimanche d'après, je suis une autre invitation dans une autre église. Donc il se peut que je vienne chez toi dans 3 dimanches. J'ai dit, bon, laisse tomber. Pff, t'as rien compris, toi. Voici l'une des raisons pour lesquelles il tourne en rond. C'est pas ce qu'il veut. Perd son temps. 3, fais l'inventaire de tes dons spirituels. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des dons en nous. Prends le temps d'écrire sur un papier tout ce que tu sais faire et bien faire. Parce que peut-être que la solution est là-dedans. Regarde tous les talents que Dieu t'a donnés et choisis-en un ou deux et développe-les. Il y a des choses que tu sais faire très bien, mais auxquelles tu ne prêtes pas attention. 5, concentre-toi sur ce qui te passionne. Beaucoup d'entre nous, on se demande ce qu'on veut faire pour notre vie et on ne sait pas quoi, mais souvent la solution, la clé, c'est dans nos passions. Tout le monde est passionné de quelque chose. Tout le monde. Même le paresseux qui aime dormir est passionné du sommeil. Tout le monde est passionné de quelque chose. Tout le monde. Et beaucoup d'entre nous, ce sont nos passions souvent qui nous guident. Quand tu es passionné de quelque chose, tu es heureux. Tu te lèves le matin, tu es content et tu es même prêt à travailler pour gratuit. Tellement tu es passionné. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es payé pour la musique que tu fais? Tu es payé? Tu es payé? Est-ce que tu es payé à ta juste valeur? Non. Mais pourtant, tu l'as tous les jours. La passion. Est-ce que moi, vous me payez pour faire ce que je fais là? Non. Heureusement d'ailleurs. Amen. 6, regarde toutes les expériences de ta vie, même les plus difficiles. Tu verras que ta destinée est liée à tes expériences passées. Beaucoup d'entre vous, c'est parce que vous avez eu des vies difficiles auparavant. Vous avez expérimenté des choses. Dieu a permis que vous passiez par là pour être une solution pour d'autres personnes qui vivront la même chose. Souvent, c'est ça. Amen. 7. Porte une attention particulière sur ce qui te met en colère et que tu ne supportes pas. Il y a des choses qui nous mettent en colère. Souvent, c'est parce qu'on est appelé à changer ça. Ouais. Si par exemple quelqu'un entre ici, il est dans la musique et il arrive et il trouve que le son ne va pas, ça l'énerve, ça le stresse pendant le culte. Dès que Mallory ou Estelle fait une fausse note, il fait ça. Il vient me voir, il dit, pasteur, vraiment, votre groupe de chant, c'est génial, je bénis le Seigneur, mais ça va vraiment pas au niveau des voix. Hein. Voilà, le pianiste, la musique, c'est le désordre total. Là. J'ai dit, ok, alors tu rentres dans la louange et puis tu corriges ça. Il va s'impliquer dedans et puis demain, pourquoi pas ouvrir un label de production et produire des musiques. Amen. Dis avec moi, Seigneur, merci pour la vision que tu me donnes pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On va incliner la tête et on va prier. Quoique, peut-être que le Saint-Esprit voulait que je reste sur ce point. Parce que la vision, il sait que c'est très important. Nous sommes déjà au mois de mars 2015. L'année a commencé déjà depuis plus de 3 mois. Et beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas vraiment où nous allons pour notre vie. On n'a même pas de projet clair. Il y en a qui cherchent du travail. Il y en a qui sont encore sur le banc de l'école, mais qui ne savent pas ce qu'ils vont faire après leur bac. Il y en a qui travaillent dans une société de la place, mais qui n'ont pas une vision claire de leur vie. Ils savent pas, ils aimeraient bien se marier, mais ils n'ont personne avec qui se mettre. Même au niveau de tes finances, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire de ton argent. En ce qui concerne la construction de ta maison, tu ne sais pas si un jour tu auras ta propre maison. Quand il s'agit du ministère, tu ne sais pas trop où tu vas au niveau de l'église. Tu viens à l'église tous les matins, mais tu ne sais pas trop à quoi Dieu t'appelle. La Bible parle de destinée. La Bible parle d'appel, de ministère, de tout un tas de choses. Et tu ne sais pas quel est ton ministère. Tu ne sais pas quel est ton appel dans la vie. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu ne sais pas. Eh bien, la prière qu'il faut faire, c'est Seigneur, donne-moi une vision pour ma vie. Ouvre mes yeux, Seigneur. Si vraiment je suis appelé à vivre sur la terre pour manifester ta gloire, Seigneur, donne-moi une vision pour ma vie. Éclaire-moi, Seigneur. Parle-moi. Voici, je te sers dans ta maison. Je me lève le matin. Je marche dans la consécration. Je ne pêche pas contre toi. Je ne te déshonore pas. J'honore mon pasteur. J'honore mes frères et sœurs. J'ai une vie rangée. Mais Seigneur, je ne sais pas où je vais. Le matin, je me lève, mais je ne suis pas épanoui. Le matin, je me lève, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux parce que tout simplement, quand je me lève le matin, je ne sais pas pourquoi je me suis levé. Oh Seigneur, parle-moi. Suis-je appelé à apporter ta parole? Suis-je appelé à devenir un entrepreneur? Suis-je appelé à travailler dans le social? Suis-je appelé à servir fidèlement dans ta maison? Suis-je appelé à servir auprès des femmes, auprès des enfants? Seigneur, quelle est ma vision? Quelle est la vision que tu as pour ma vie? Tu as dit dans ta parole, dans Matthieu 9, au verset 37, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Je ne veux pas faire partie de ceux-là qui ne se sont pas levés, Seigneur, pour être des élus, Seigneur. Alors me voici devant toi. Merci parce que, comme tu l'as fait pour Abraham, tu restaures la vision de mon cœur. Comme tu l'as fait pour Samuel, tu me permets d'entendre ta voix et de voir, Seigneur, ma destinée, Seigneur. Oh Dieu, merci pour la vision que tu déposes dans mon cœur, Seigneur. Merci, Père, parce que désormais, mes yeux s'ouvrent en Jésus-Christ. Mes yeux s'ouvrent pour voir ce à quoi tu m'appelles. Merci pour les dons et les talents que tu as déposés en moi, Seigneur. Merci parce que
par la grâce surabondante de Christ, tu me permets, Seigneur, de découvrir les dons et les talents que tu m'as donnés, de les développer, Seigneur, et de devenir un instrument entre tes mains, Père, pour, Seigneur, bénir, Seigneur, mon Dieu, ceux qui m'entourent. Merci parce que tu m'accordes la grâce d'être une source de bénédiction pour mon entourage, pour mon quartier, pour ma communauté, pour ma nation et pour le monde entier, Père de grâce. De sorte que, oh Dieu, j'irai, Seigneur, et je rayonnerai à la gloire de Dieu, Seigneur. N'as-tu pas dit dans la parole que nous sommes la lumière du monde? Accorde-moi la grâce d'être cette lumière, Seigneur, qui resplendit pour la gloire de Christ. Mais avant toute chose, Seigneur, montre-moi ce à quoi tu m'appelles. Montre-moi ma destinée. Montre-moi, Seigneur, le domaine dans lequel tu m'appelles à exceller. Montre-moi, Seigneur. Je ne veux plus perdre du temps, Père. Je ne veux plus perdre du temps dans des futilités. Je ne veux plus perdre du temps dans le monde. Je ne veux plus perdre du temps, Seigneur, avec des personnes qui ne m'apportent rien. Je ne veux plus perdre du temps, Seigneur, avec quelqu'un, Seigneur, dont je suis amoureux, mais qui ne m'apporte rien non plus. Je ne veux plus perdre du temps. Je veux me concentrer sur ma destinée. Je veux me concentrer sur mon appel. Je veux me concentrer sur mon ministère. Je veux me concentrer sur Jésus-Christ. Je veux me concentrer sur toi, Seigneur. Alors mon âme soupire après toi. Montre-moi, Seigneur, la voie, Seigneur, que tu as tracée pour moi. Montre-moi, Seigneur. Merci pour la vision que tu me donnes. Merci, Seigneur. Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la vision que tu déposes, Seigneur, oh Dieu, dans le cœur de tes enfants. Merci parce que tu illumines les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent l'espérance qui est attachée à leur appel. Seigneur, merci parce que désormais, les jeunes, Seigneur, oh Dieu, dans ta maison, ont des visions. Les vieillards, Père de grâce, ont des songes. Désormais, Seigneur, les yeux s'ouvrent dans ta maison. Aucun jeune n'erre, aucun jeune ne se perd, de sorte que tous les jeunes dans ta maison, tu leur donnes de grandes visions. Seigneur, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'il y en a à qui tu donnes des visions pour bâtir des entreprises multimillionnaires dans cette nation. Il y en a à qui, Seigneur, tu ouvres les yeux afin que, Seigneur, ils voient, Seigneur, qu'au travers de leurs dons et de leurs talents, ils sont appelés à être des inventeurs. Merci parce que dans ta maison, tu suscites des inventeurs, tu suscites des hommes politiques, tu suscites des professeurs, tu suscites des enseignants, tu suscites, Seigneur, des sportifs hyper talentueux, tu suscites, Seigneur, oh Dieu, des présidents de la République, tu suscites des rois, tu suscites, Seigneur, oh Dieu, des chefs d'entreprise qui vont être des solutions économiques pour cette nation, tu suscites des serviteurs de Dieu qui vont annoncer ta parole jusqu'aux extrémités de la terre, tu suscites des jeunes passionnés et radicaux pour Christ. Seigneur, merci parce que celui qui ne voit pas, désormais voit. Celui qui est aveugle, ses yeux s'ouvrent maintenant, il voit pour sa vie, Père, au nom de Jésus-Christ. Celui qui est encore sur le banc de l'école et qui ne sait pas ce qu'il fera après son bac. Seigneur, merci parce que tu lui donnes une vision pour sa vie, une vision claire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu suscites la passion dans les cœurs, Seigneur, de ceux et des autres, afin que tous, Seigneur, viennent à ta maison avec le sourire pour témoigner de ce que tu auras fait dans leur vie, Père. À toi soit toute la gloire, Seigneur, et la louange. Amen. Amen. Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.